Un petit peu comme ça fait du bien. Hein? C'est bon? Voilà, ça se met en route. C'est bon. Donc, il était question de la foi. La foi est une ferme assurance aux choses que nous espérons, mais nous ne voyons pas encore. Donc, vous voyez des choses, de quelles choses, lorsque nous acceptons Jésus, et par la foi en Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu Tout-Puissant, d'accord? Et nous croyons à la vie éternelle, à l'éternité. Et on peut imaginer beaucoup de choses. On peut imaginer une voiture, pardon, une vie heureuse, une vie où il y a la paix, une vie où il y a la justice. Ça fait beaucoup ça, hein? La paix, la justice, le respect les uns envers les autres, une atmosphère où il y a vraiment la joie. On peut imaginer beaucoup de choses, mais la Bible nous dit que ce que Dieu a préparé pour toi et moi, ça nous dépasse. Ça dépasse nos imaginations. Amen. C'est tellement merveilleux, c'est tellement grand. Et toi et moi, tu es jeune ou moins jeune, peu importe. Ben voici, nous avons pris un chemin qui nous mène vers l'éternité. Et pour finalement être vraiment sûr que c'est une réalité, voilà, nous avons besoin de la foi. Et nous croyons, nous ne voyons pas avec nos yeux, mais nous croyons que des choses merveilleuses sont devant nous. Donc c'est une certitude. Il y a des religions. Il y a toutes sortes de philosophies qui viennent nous dire, d'accord, je vais servir ma religion parce que si jamais il y a quelque chose, vous comprenez, si jamais c'est une réalité au niveau de cette philosophie, eh ben voilà, j'ai une chance de pouvoir, voilà, me retrouver dans une vie meilleure. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Dieu a envoyé Jésus pour nous donner et nous accorder une certitude, une conviction personnelle, quelque chose de tellement profond, quelque chose qui nous aide déjà actuellement à vivre dans une vie, voilà, bouleversée autour de nous, d'injustice, la violence, etc. Mais dans cette vie-là, Dieu nous aide à mieux maîtriser les circonstances. Et toutes sortes de combats que nous avons, eh ben, chaque fois, nous levons la tête vers Dieu pour lui dire, merci Seigneur, tu es avec moi. Si tu es avec moi, qui sera contre moi? C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Donc, ce n'est pas une chose, ce n'est pas le principe de quelque chose qui veut nous dire, peut-être, on verra ça. Mais c'est une certitude. Et la foi, c'est une assurance des choses que nous espérons, les choses vers lesquelles nous allons. Mais je vous répète souvent, puis la parole de Dieu est claire dans ce domaine-là, que nous avons l'éternité avec Jésus. Mais attention, parce qu'il y a quand même l'éternité sans la présence de Dieu, là où il y aura. Il n'y aura pas de justice, la paix, la joie, mais il y aura le tourment éternel. Mais nous, nous avons choisi quoi? L'éternité dans la présence de Jésus. Ah, c'est formidable. Bouh. Donc voilà la foi. Mais cette foi, la foi que nous avons, quelquefois, elle est perturbée par les problèmes, par les difficultés. Moi, je ne vous cache pas que quelquefois, je n'ai jamais douté jamais douter en ce qui concerne l'éternité, jamais douter. Mais quelquefois, j'ai douté à certaines choses, si on peut dire, certaines promesses. Ouais, je me suis engagé, puis voilà, il y a le doute qui passe devant moi, et tu penses que... Et regardez, je vous donne un exemple. Quand je suis venu dans ce local-là, pour la première fois, et j'ai vu un hangar, j'ai vu la tristesse, c'était, j'ai dit, quoi avec ça, faire la salle? Donc, j'ai dit non. J'ai dit non pour la première fois. Et puis ensuite, quelques mois sont passés, il y avait un certain Manuel que quelqu'un connaisse, m'a téléphoné, il m'a dit, Antoine, il y a un agent immobilier, est venu, je l'ai rencontré, et il faut que tu lui téléphones, il faut que tu donnes une proposition. Et par respect, je suis venu une deuxième fois ici, et j'ai dit non, pas ça. Quand j'étais loin, c'était oui, mais quand je suis entré dans ce local-là, c'est impossible qu'on puisse faire de ça. Et c'est une salle de culte. Et troisième fois, et quatrième fois, pendant quatre fois, j'ai douté que c'était vraiment la volonté de Dieu. Il y a Dieu qui m'a parlé, et puis il y a moi, mon moi, qui disait, mais c'est pas ça, il y a trop de travaux, ça ne nous coûtera pas trop cher. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis au moment où je suis arrivé à la dernière fois, voilà, on a baissé les prix, on a, voilà, les choses se sont faites comme ça. Et vous savez ce qui s'est passé pour ceux qui ne savent pas, c'est que Dieu nous a envoyé de l'argent, les équipes, on parle souvent de Rotterdam ici, parce qu'il y a les équipes qui sont venues de Rotterdam pour nous soutenir, pour nous aider. Quelquefois, c'était comme ça, et Brigitte n'est pas là, mais combien cette femme, elle était précieuse un jour. Voilà, il y avait un chantier, et puis elle m'a dit, Antoine, comment tu vas faire avec ça? Je lui ai dit, on n'a pas d'argent, donc on va attendre un petit peu, vous comprenez? Et elle m'a dit, mais c'est pas bon, il faut changer. Il faut changer ça et ça. Et elle m'a dit que ça va coûter, ça coûte combien? Ben, j'ai dit, écoute, ça coûte beaucoup, on n'a pas d'argent, on a commencé avec quelques personnes. Et puis je lui ai dit 6 000 euros. Elle a sorti le chèque et puis elle a fait un chèque de 6 000 euros. Il m'a dit, va acheter le matériel. Va acheter le matériel. Vous comprenez? Et là, mon doute a été brisé tout doucement. Je me suis engagé, je doutais encore. Je doutais encore, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire ma femme? Elle a décidé de me suivre. Vous comprenez? Les doutes, on sait qu'ils concernent l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas longtemps, je vous ai dit, il y a quelqu'un, j'ai dit, bon, on va attendre encore un an pour le chauffage. Quelqu'un qui est venu me voir pour me dire, on va arrêter de prier, tu as déjà les financements. J'ai dit, ça coûte 12 000 euros, on n'a pas d'argent. Ah ben, il dit, dans 2-3 jours, je te fais un chèque et tu achètes le matériel. Et puis voilà, vous comprenez, j'ai douté et Dieu m'a béni. Ça arrive, hein? Quand vous doutez, il y a des choses qui se passent. Et puis ça m'a secoué, ça m'a donné la force de pouvoir continuer. Et puis voilà, le plafond, quand les Anglais, les Anglais nous ont bénis aussi. Hein. Ah ouais, il y en avait pas mal. Pas mal. Pas seulement les Hollandais. Hein. Alors là, la même chose, on vient travailler, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, oui, il y a du boulot, mais je n'ai pas d'argent. C'est toujours comme ça. Elle dit, ça coûte combien? J'ai dit, bon, à peu près 6 000 euros. 6 000, ben, le plafond, tout ça, 6 000 euros. Bon, il dit, tu trouves de l'argent, tu commandes le matériel, puis donc nous, on arrive le week-end, pendant 3 jours, on travaille. Et ça, on arrivait, j'ai commandé le matériel, on peut toujours s'arranger hein, avec les... J'ai commandé le matériel, on m'a livré le matériel et nos amis sont arrivés à 8 pour 3 jours hein, avec une enveloppe. Et ils m'ont dit, eh ben voilà, il y avait même 8 euros de plus que ce que j'ai payé. Vous voyez, je ne vous cache pas, beaucoup, quand on est engagé dans l'œuvre de Dieu, partout, il y a des doutes, il y a des doutes. Voilà, le Satan veut nous. Voilà. Il y a pas longtemps, il y a Paul qui m'a dit j'ai besoin de 2000 euros pour le matériel, pour c'est ça. Hein. Et c'est, je lui ai dit oui avant, mais après, on a dépensé de l'argent pour autre chose, etc. Et je n'osais pas lui dire, écoute, ça va être difficile. Et tout à coup, le Seigneur a béni, on a de l'argent. Alors, il y avait un moment de doute pendant une année ici, quand je vous ai dit, j'étais attaqué par les doutes. Là, je me suis dit, je me suis engagé, j'ai peut-être dit trop vite. Oui, mais je ne peux plus revenir en arrière, vous comprenez? Alors, on continue, et Dieu bénit, et Dieu bénit. Alors, ça, c'est vrai, parce que quand on parle de doute, on a toujours dit, quand on doute, on ne reçoit rien, c'est vrai, hein? Et moi, ça m'arrive que je doute et puis Dieu me bénit. C'est la grâce. Ah, c'est vrai, je me suis rendu compte maintenant, parce que c'est vrai, on dit toujours ne doute pas, on brise le doute, si on doute. Mais quelquefois, en ce qui concerne, je vous ai dit, il ne s'agit pas du salut, ça, je n'ai jamais douté, mais des choses, des actions que nous menons, quelquefois, ça m'a. Ça, voilà, il y a le doute qui a une perturbation et finalement la foi c'est une assurance, c'est une sécurité, c'est la certitude, mais en ce qui concerne donc la vie éternelle. Alors, pour que cette foi soit efficace, puissante, il faut que cette foi, notre foi, puisque la parole de Dieu nous demande de pour que nous puissions faire grandir la foi. On est bien d'accord. On reçoit Jésus, on boit à biberon, on est des bébés, et puis on apprend, et puis plus le temps passe, l'objectif, c'est faire grandir notre foi, puisqu'il y a des défis devant nous. Amen. Alors, comment faire grandir la foi? La première chose, c'est quoi? C'est lire la parole de Dieu. C'est écouter la parole de Dieu. On est d'accord ou non? Puisque la parole de Dieu nourrit ta foi, nourrit la foi. La foi, c'est un don de Dieu. Tout est par grâce. C'est Dieu qui a engendré la foi dans ton cœur. Et c'est à nous à faire grandir la foi pour que nous soyons plus en plus efficaces et en même temps détruire les oppositions que nous rencontrons chaque jour dans notre vie personnelle, dans le couple, la famille et aussi l'Église. Donc la foi est nourrie par la parole de Dieu. C'est pourquoi on vous propose des études bibliques, les fondamentaux, ce sont les études bibliques, c'est suivi. D'accord? On vous propose tout ça pour que votre foi soit nourrie par la parole de Dieu. Alors, ensuite, pourquoi on vous parle de l'intercession, de la prière, etc. Parce que ça fait partie aussi d'un domaine qui nourrit notre foi. Plus on prie, on intercède, on combat dans la prière, plus ma foi se consolide et puis l'ennemi nous attaque et nous restons comme un arbre, vous comprenez ? Avec des bonnes racines, des racines profondes, et puis voilà, il y a les vents qui se jettent contre moi d'un côté, de l'autre côté. Voilà, il y a des tornades qui se jettent contre nous, mais nous sommes bien enracinés dans la foi, nous sommes fermes dans la foi, et quand les tempêtes se jettent contre nous, on bouge un peu, hein, quand même, hein. Hein, on chancelle un peu là. On a reçu une gifle là, il y a le vent là qui a soufflé. Vous comprenez comme ça un peu là. Seigneur! Mais finalement, la tempête passe et on est toujours là. Allez, déjà. Et c'est ça. Donc, il est question de nourrir notre foi et ensuite aussi Il y a le domaine de l'esprit, le domaine surnaturel. Donc nous allons lire à Corinthiens, c'est le même message que nous avons lu le dimanche dernier, mais je reviens là-dessus parce que c'est tellement profond. Donc 1 Corinthiens chapitre 2 et le 5 premier verset nous disent « Pour moi, frère, vous vous souvenez dimanche dernier, lorsque je suis allé chez vous, d'accord, donc il s'adresse ici à une église de Corinthe, une grande église à l'époque, mais cette parole nous concerne, d'accord, cette parole s'adresse aussi à nous. Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, etc., ou de sagesse, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. » Vous voyez, l'essentiel pour la chrétienne, c'est quoi? C'est connaître Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion, une dénomination. Avoir une connaissance, savoir quelles étaient les chaussures de Paul, tout ça, c'est secondaire. Comprenez ce que je veux dire. Mais Paul voulait savoir juste une chose, c'est voilà, autre chose que Jésus-Christ. Et plus loin, c'est encore plus franc, plus profond. Et Jésus-Christ, comment? Et Jésus-Christ crucifié. Alors, les chrétiens dans le monde entier, le but de l'Église sur cette terre, voilà, c'est tourner vers qui? Vers Jésus-Christ, mais c'est lui qui était crucifié. Il y a des gens, il y a toute une philosophie, une religion, où beaucoup de religions refusent Jésus, d'autres acceptent Jésus comme un prophète, mais pas le Fils de Dieu. D'autres acceptent que Jésus existait, mais qu'il n'est jamais mort. Il y a toutes sortes de philosophies. C'est pourquoi Paul insistait vraiment, et il voulait que ça soit clair pour tout le monde, que Jésus est venu pour une mission spécifique, pour sauver l'humanité, et ensuite aussi annoncer celui qui est mort, qui a payé le prix, celui qui a été crucifié, c'est celui qui a souffert pour toi et moi, celui qui a souffert pour l'humanité. Chaque fois quand je lis ce verset, ça me bouleverse. Je me dis, mais j'ai jamais mérité. C'est la grâce. J'étais perdu, condamné, mais Jésus a été crucifié sur la croix de Golgotha, il est mort. On a craché dans son visage. Et il a demandé même pardon pour ce propre meurtrier. Vous vous rendez compte? Nous, quelquefois, pour des petites choses, on se fâche. On ne veut pas dire bonjour. On change le trottoir pour quelqu'un qui a eu peut-être une maladresse, etc., envers nous. Ou quelquefois, oui, on a raison, oui, on nous a fait de mal, mais Jésus a souffert plus que toi et moi. Amen. Et c'est lui qui a pardonné, même à ce meurtrier, Étienne a pardonné à ce meurtrier, ceux qui jetaient les cailloux, les pierres sur sa tête, sur son corps. C'est lui qui a souffert. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit à Dieu, pardonne-leur. Pardonnez, ils ne savent pas. Tout ce qui comptait pour lui, peu importe si je meurs, mais ce qui comptait, c'est que ces gens-là soient sauvés. Amen. Et il a payé un prix pour nous. Donc regardez, Paul, quand il est arrivé, voilà son but, c'était présenter Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et des grands tremblements. Alors quand Paul dit de crainte, c'est-à-dire dans un esprit de respect et de soumission. La crainte veut dire ça. Quand je crains Dieu, j'ai respect de Dieu, j'ai un respect, un profond respect envers Dieu, et je me soumets à lui. Donc Paul est venu dans cet état, cet état d'esprit. Donc vous voyez, c'est très fort. Alors là, on est en verset 4. Et ma parole et ma prédication, donc mon témoignage, ma prédication, mon témoignage, mes paroles, d'accord ? Ne reposez pas sur le discours, comment ? Persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de quoi ? D'esprit et de puissance. Enfin que votre foi, voilà, on arrive. Enfin que votre foi fût fondée, basée, d'accord, fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous entendez par Internet tellement de choses. Vous pouvez entendre par l'Internet toute une philosophie qui va vous dire, surtout, il ne faut pas aller dans les locaux, il ne faut pas acheter des bâtiments. Tout ça, c'est Babylone, ça, on parle comme ça ouvertement. Tout ce qui compte, c'est se retrouver dans une maison, dans les maisons. Ça, c'est une philosophie. Mais nous ne sommes pas, la parole de Dieu n'est pas contre de se réunir dans les maisons. On est bien d'accord ? On vous encourage quand vous vous réunissez et puis il y a des groupes de maisons. Mais un local est un outil, tout simplement. Si on peut se payer, voilà, se payer local, voilà, c'est pour ça que nous mettons les finances. Parce que c'est aussi un confort, mais aussi un témoignage pour l'œuvre de Dieu. Il y a tellement de choses. On va vous dire par Internet, surtout donner les dîmes, c'est pas biblique, c'est etc., etc., etc. Vous allez entendre parler de ça. Voilà. Mais comment voulez-vous que l'Église puisse fonctionner si pendant 4 dimanches déjà vous n'allez rien donner là? Ah ben on va commencer à fermer les locaux parce qu'il faut payer les charges, les impôts, etc., etc., sans parler de soutien de ministère. C'est une grâce, c'est un privilège. On est à 2, on est à 10, on va dire, nous mettons toute notre énergie ensemble pour construire un témoignage, un outil, une plateforme qui est une bénédiction pour ce qui se passe. Il y a tellement de choses. Et puis voilà, Paul, déjà à cette époque-là, il y avait toutes sortes de doctrines, voilà, Jésus n'est pas mort, Jésus était juste le prophète, etc. Mais Paul est arrivé pour dire, voilà, moi, je suis venu avec un grand respect envers Dieu, connaître, vous présenter Jésus-Christ, c'est lui qui est mort et qui a payé le prix pour l'humanité. D'accord ? Donc, maintenant, la foi, notre foi. Hein, je vous ai dit, la foi est nourrie par la parole de Dieu, par la prière, ça va, c'est bon. Mais Paul nous demande encore plus pour que la prédication, que ça, le témoignage, la prédication ne soit pas, voilà, vous avez entendu, qu'il ne repose pas sur les discours, etc. Il s'agit de ça. La sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit, je répète, et de puissance, enfin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, non sur ce que les gens disent, toutes sortes de philosophies, vous comprenez, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, quelque chose surnaturel. Alors, La démonstration, on parle ici de la démonstration. Quand on parle de la démonstration, vous savez, il y a toute une évolution dans tout ce qui est donc, tout ce qui est électronique, etc. Il y a des évolutions. Vous prenez juste un petit, pensez au café, par exemple, hein. Je me souviens que j'étais tout petit, voilà, il y avait des petits moulins, hein, et puis on faisait comme ça ou comme ça, voilà, on faisait comme ça, j'ai connu ça. On mettait le café, les grains du café dans le, voilà, et puis voilà, et ça sentait bien, c'était bon. On a perdu tout ça, hein, perdu ça. Et après, il y a eu une évolution. Et aujourd'hui, il y a encore une évolution. On nous ramène du café, ça. C'est juste à côté de la café. C'est pas du tout la même chose qu'on a connue il y a 40 ans, mais c'est du café. Bon, pas critiquer. Vous comprenez? Alors, on vient vous vendre un matériel, d'accord? Un appareil. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient, comme c'est nouveau, quelque chose plus, ça va plus vite, voilà, plus technique, etc. On vient vous présenter un appareil. Ah, c'est beau, c'est formidable, tout ça. Mais ça ne suffit pas, hein, ça ne suffit pas. Alors, la personne nous dit, voilà, on va vous montrer. On voit l'appareil, c'est une chose. Et puis ensuite, on verra, cette démonstration nous montrera ce que le petit moulin fait ou autre chose. Et puis on nous montre, il y a des choses qui se passent. Hein? Quelquefois, on ramène même dans la cuisine pour faire des repas. Il y a des appareils là, des appareils. Et puis on ramène un peu quelques bricoles. Je suis pas cuisinier. Et ensuite, après cette soupe, voilà, nous produit une bonne soupe. Enfin, cet appareil nous produit une bonne soupe. C'est bon. C'est ça la démonstration. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, la démonstration du Saint-Esprit, la même chose. Il y a quelque chose qui se passe. Si c'est intellectuel, si c'est que la parole, mais Paul voulait que notre foi soit fondée sur quelque chose surnaturel, sur quelque chose puissant, sur la puissance de Dieu, quelque chose qui nous dépasse. Dimanche dernier, je vais vous donner deux, trois exemples vécus. Vous vous souvenez de dimanche dernier, comment ça s'est déroulé à peu près? Et il y avait une jeune fille ici qui était assise là-bas au fond. Et je ne pensais vraiment pas faire un appel. J'observais une personne qui était là, et ça c'est un peu ma façon, quand on a des réunions dans l'esprit, je pense toujours aux personnes qui sont là pour la première fois. Je dis, Seigneur, agis, mais il y avait une certaine époque, on nous a tellement dit, faites attention, priez pas aux langues, pas d'esprit, parce que les gens vont quitter la salle. Vous savez, moi je courais après tout ce qui fonctionnait. On est tellement, on a le cœur pour Dieu, on veut tellement que l'œuvre de Dieu puisse avancer, donc on essaye de voir des choses. Et puis là, j'observais une personne et je me suis dit, bon, si jamais la personne elle se barre, je vais courir après elle parce que ça sera ma faute. C'est un peu, ah ouais, pour moi, une âme, il n'y a pas de prix. Mais où est l'équilibre? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais en même temps, la parole de Dieu nous parle de la puissance de Dieu, nous parle de les actes des apôtres, de la Pentecôte. Quand il y avait des choses qui se passaient, les gens ont été touchés. Et puis au moment où je reçois une pensée, et là je ne doutais pas, je recevais une pensée, fais un appel. Et on était déjà engagés, on devait déjà, fais un appel. Et on était déjà debout, et c'est plus difficile quand on est debout voir quelqu'un. Et tout à coup, là-bas, on me signale, il y avait deux personnes en fond là-bas. On dit, là, il y a la personne. Ah bon? Il y a la personne. Elle a levé la main, mais j'ai pas vu. Et ensuite, voilà, on a prié, vous vous souvenez? Et j'ai confié à Antonia cette jeune fille. C'était à toi, Antonia? C'était à toi? Et tu es parti prier, s'occuper de cette jeune fille, pendant que nous étions là devant. Et nous avons prié, on a invoqué la présence de Dieu, etc. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit quand elle a entendu que nous prions ici? Vas-y, parle-nous de ça, parce que moi j'ai entendu déjà au moins par deux personnes, je suis peut-être troisième personne entre toi, mais toi directement, tu as entendu des choses. Hein? Non, elle n'est pas là ce matin, mais elle est venue toute la semaine, elle était là dans les réunions, même à la louange, je pense.
Bah, elle m'a demandé, c'est quoi cette langue que j'entends là? J'allais pas mentir. Bon, c'est le parler en langue. On peut dire que c'est une langue des cieux. Et toi, tu comprends là ce qu'ils disent? Là, non. Mais Dieu peut te donner le discernement de comprendre. Mais Dieu, lui, il la comprend. Puis elle m'a dit, bon, je suis contente de parler avec toi, mais j'ai envie d'aller là-bas. Je sens que c'est fort. Et donc, elle est venue là.
Vous voyez, merci Antonia. Elle était. Il faut voir un peu plus loin. Elle était attirée, l'onction de Dieu, la présence de Dieu a attiré la jeune fille ici. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Elle dit, sors, pars. C'est pas normal, il y a quelque chose, ces gens sont bizarres. Mais le Saint-Esprit fait quoi? Le Saint-Esprit attire, viens, je t'aime. Elle était touchée, elle était visitée puissamment par la puissance de Dieu. J'ai vu la jeune fille, mais là, je ne la vois pas maintenant, donc on verra si elle vient revenir. J'ai reçu un texto, c'était jeudi matin. Et puis on a crié, au secours. Il y a des problèmes, il y a la destruction, c'est catastrophique dans un couple. La personne m'envoie un mot. Et j'ai dit à Christiane, il y a le feu, on est de pompiers, il faut aller. Elle avait un engagement comme moi j'avais d'autres engagements. Et voilà, 1, 2, 3. Qu'est-ce qui est plus important? Là, c'est important, mais là, il s'agit de la vie ou de la mort. Alors, je suis un pompier. Je dois aller secourir quelqu'un qui est en train de mourir spirituellement. Puis voilà, on est arrivé là, et j'ai dit, Seigneur, oui, je vais parler. J'arrive là dans la maison, tout est calme. Il n'y a aucun problème, vous comprenez? C'est comme si que on arrive et tout recule. On commence à parler, discuter juste avec une personne d'un couple. Et puis on a compris pas mal de choses. Et je dis, Seigneur, mais si je dois revenir ici dans une semaine, et dans un mois, et dans 6 mois, et c'est là qui bouge, on n'est pas très efficace. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de la puissance de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de quelque chose de surnaturel pour que la personne soit touchée. Et puis ensuite, nous avons rencontré hier soir une deuxième partie du couple et on parle ensemble et on met une stratégie d'action. Comprendre une stratégie d'action. Il y a une destruction, tout est détruit, démoli, il n'y a plus rien de bon là. Ah, il faut tout reconstruire. On est bien d'accord? Mais il faut déraciner la puissance des ténèbres. Ça ne s'est pas passé comme ça tout seul. Alors voilà, on met une stratégie d'action. Et souvent, dans certaines situations, je donne un délai de 2 mois. Je donne un délai, je dis en 2 mois, ça va être réglé. Quelquefois, on règle tout de suite, et d'autres fois, on n'a pas de résultat. Ça nous frustre vraiment. Et au moment où on a mis action, on a mis toute une stratégie d'action, vous comprenez? Voilà, et puis on a dit, Saint-Esprit, tu vas nous aider, tu vas nous conduire. Et là, nous aurons la victoire, nous aurons des changements, nous aurons des transformations, nous allons pouvoir sauver quelques vies parce qu'il y a les enfants autour. Comprenez? C'est important. Et au moment où on met la stratégie d'action, on voit les attaques. On voit l'ennemi. J'ai reçu, j'étais au contact par le moyen actuel. Encore ici, on voit les morts, boum, voilà. Et j'ai dit, il y a ça et ça. Et Satan, il a compris que voilà, Antoine est en train de préparer une stratégie d'action pour lui demander de partir. Et chaque fois, ben, je n'ai pas de pitié pour ça. Je dis, tu vas à l'enfer. Pas du choix. Dehors. Et il a compris. Ce sont les démons qui l'envoient. Les démons comprennent. Ils veulent détruire une famille. Et toutes les personnes autour. Oh. Moi, quand je vois ça, je suis déchiré quelquefois. Et voilà, j'ai pris l'autorité et j'ai dit, ce soir, rendez-vous à 8 heures. Pensez à moi, Christiane et moi, à 8, ce soir à 8 heures. Ça va être la vie ou la mort d'un couple, d'une famille. Mais je ne vais même pas donner une stratégie d'action de 2 mois, mais je vais tout faire pour les libérer. Pour les libérer. Est-ce que vous êtes avec moi? Ben, Jésus est venu pour ça. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin que la foi, ma foi, encore aujourd'hui, vous comprenez, je vous parle, mais moi aussi, j'ai besoin pour que ma foi soit fondée sous la puissance de Dieu, sous les miracles, sous les prodiges, sous les promesses de Dieu, pas sur la philosophie des hommes. Amen. Et de la sagesse des hommes. Voilà, donc vous voyez, notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. L'évangile de Luc 4, le verset 14 nous dit, Jésus, revêtu de quoi? De la puissance de l'Esprit. Jésus, parce qu'il est venu comme un homme. Il était fils de Dieu, mais il était aussi fils de l'homme. Et c'est Jésus qui était fils de l'homme, revêtu de la puissance de Dieu, retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Pourquoi? Parce qu'il chassait les démons, parce qu'il libérait les captifs, parce qu'il faisait des miracles. Il était la solution pour toutes les personnes qui avaient besoin de s'en sortir. D'accord? Et le verset 18-19, merci, le même chapitre, nous dit « L'Esprit du Seigneur » Et sur moi, donc Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Il ne s'agit pas tout simplement de guérison physique, on est bien d'accord? Mais il y a tellement de gens qui ont le cœur brisé, déchiré. Il y a des gens meurtris, il y a des gens qui me disent clairement, je ne vais jamais pouvoir pardonner. Il m'a envoyé pour guérir, je répète, ceux qui ont le cœur brisé. Il y a tellement de gens autour de vous. Et quelques-uns parmi vous, nous avions aussi dans le passé nos cœurs brisés. On est bien d'accord? Pour proclamer aux captifs, vous voyez, captifs, ceux qui sont emprisonnés dans différentes sortes de philosophies, des religions, des péchés, etc. Donc, la captivité. Donc, pour proclamer aux captifs, quoi ? La délivrance. Soyez libres. Devenez heureux. Ça veut dire ça ? Pour proclamer, je répète, aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés. Il n'y a pas. Cette semaine, j'ai posé une question à une personne, et puis j'ai dit est-ce que tu fais des choses que tu ne veux pas? Vous avez compris? Est-ce que quelquefois tu ne veux pas faire des choses, mais il y a quelque chose de plus puissant en toi qui te pousse à faire les choses? Vous voyez ce que je veux dire? Alors voilà, il y a des gens comme ça. Et nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de la puissance de Dieu pour renvoyer libérés, heureux, ceux qui sont quoi? Emprimés, qui sont liés, qui ne sont pas libres, pour publier une année de grâce du Seigneur. La grâce, pour le moment, elle est pour tout le monde, pour le monde entier. Est-ce qu'il y a encore un verset là? 18, 19, c'était que ça. Voilà, donc vous voyez, Jésus est en toi et en moi. Amen. Il est venu t'habiter. Et il te dit, Patrick, on y va ensemble. Je suis avec toi. On va combattre. On va libérer. On va délivrer. Parce que Jésus, par son esprit, est en nous. Et nous pouvons faire quoi? Des exploits. Il ne nous demande pas tout simplement de travailler pour lui. Travailler pour lui. Souvent, on a accepté cette formule. Ah, oh, je travaille pour Dieu. Ah, il faudrait que tu travailles un peu plus pour Dieu. Et moi, je n'ai jamais accepté. Je n'ai jamais été contre parce que je comprends et l'intention est bonne. Mais j'ai plutôt accepté cette pensée en disant travailler avec Dieu, travailler avec Jésus. Je me fatiguerai moi et nous serons plus efficaces. Si je travaille tout seul pour Dieu, je me fatiguerai. Vous comprenez? Mais bon, ce n'est pas une doctrine. Ça, c'était toujours moi, travailler avec Dieu. Travailler avec Jésus. Jésus est avec nous, travaillons avec Jésus. Déjà, pour moi-même, amen, pour moi-même, chacun d'entre vous, vous avez vos combats, vos difficultés. Alors, déposez-le ce matin ici. Et puis ensuite, nous allons aussi réclamer la bénédiction pour les autres, pour que nous soyons une bénédiction, la solution pour ceux qui ont besoin. Comme je vous ai donné un témoignage, j'en ai plein avec Christiane. Si on vous raconte quelquefois des journées, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Il y a des moments où on est 15 heures dans des choses extraordinaires. Et puis il y a quelquefois, on est déçu. Et puis chaque fois, il y a une bénédiction, il y a une victoire. On a pu avancer les choses parce qu'on a toujours réclamé la puissance du Saint-Esprit. On va se lever ensemble. Et si tu penses que tu as besoin d'être renouvelé, de fortifier, si tu as compris que tu as besoin aussi la puissance de Dieu, que tu as besoin d'être un outil puissant, ben voilà, on se regroupe ici devant, on se regroupe devant ici, on va ensemble terminer ce culte-là dans la prière, dans l'intercession, dans la présence de Dieu. On va recevoir le Saint-Esprit, on va recevoir le surnaturel. On va vraiment passer encore un moment, un quart d'heure, on a encore un quart d'heure, et même si on dépasse midi, ce n'est pas grave. Et le Seigneur nous bénira.